Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bousuma.
Situation sécuritaire imprévisible dans la cité de Kiwanja au Nord Kivu. Ce 48 heures après les affrontements à Kinyandoni entre le M23 et les Wazalendo, malgré la reprise timide des activités socio-économiques, la population vit encore dans la peur. Député ne nous ment pas, c'est la campagne de sensibilisation lancée cette semaine dans le territoire de Beni par la jeunesse de Kassindi. L'objectif est de conscientiser la population locale sur un choix judicieux de leurs députés lors des prochains scrutins. Mais avant d'aller loin, sachez qu'en sport, la Confédération africaine de football a effectué hier le tirage au sort de la phase de groupe de la CAN Côte d'Ivoire 2023 à Abidjan. La RDC est dans le groupe F aux côtés de la Zambie, la Tanzanie et le Maroc. La RDC jouera à San Pedro en janvier 2024. Vous suivrez d'autres détails dans notre magazine Okapi Sport au cours de cette matinale. Madame, messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, 48 heures après les affrontements survenus mercredi dans le village de Kinyandoni entre les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo, la situation reste toujours imprévisible dans la cité de Kiwanja. Kinyandoni est situé à 9 km à l'est de Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru. Bien que quelques activités socio-économiques ont repris timidement hier, la population vit la peur au ventre car les deux belligérants se regardent en chiens de faïence dans ce secteur, affirment des sources anonymes à Kiwanja. Sifa Maguru nous fait le point.
Des sources anonymes à Kiwanja précisent que les populations de Kinyandoni et environ qui se sont déversées dans la cité de Kiwanja dans la matinée de mercredi suite à des affrontements entre les rebelles du M23 et les combattants hésitent toujours à rentrer dans leur village. Ceci malgré les multiples appels lancés par les responsables du M23 les invitant à regagner leurs agglomérations. Ces populations redoutent d'être prises sous le feu croisé des belligérants qui se regardent en chiens défaillants. Ces sources confirment que les rebelles occupent toujours le village Kinyandoni alors que les combattants sont présents en Gwenda. À Kiwanja, c'est la peur au ventre et l'incertitude qu'on peut lire sur le visage de la population. Toutes les activités socio-économiques ont timidement repris. Marchands, commerçants, cultivateurs restent aux aguets, s'attendant toujours à d'éventuels affrontements entre les deux belligérants. Plusieurs parents n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école ce jeudi matin, soulignent nos sources. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Pendant ce temps, en Ituri, une campagne de sensibilisation des miliciens renégats de la CODECO et de différentes couches de la population est lancée depuis le début de cette semaine dans le territoire de Djougou par les autorités coutumières et leaders communautaires. L'objectif est de parvenir à la cessation définitive des hostilités par les groupes armés et leur intégration au processus de désarmement et démobilisation. Selon le chef de secteur de Walendu Djati, certains assaillants se livrent encore aux violences en violation de leur acte d'engagement. Isaac Remoyope.
Cette campagne s'est déroulée mardi et mercredi dernier à Mbaou et Kobou, des villages situés à plus de 40 km au nord de Bouina dans les territoires de Djougou. Des milliers d'habitants ont participé à une rencontre populaire. Dans leur message, les notables chefs coutumiers ont demandé aux miliciens qui se cachent dans la communauté de respecter leur acte d'engagement signé en juin dernier à Arou pour la cessation définitive des hostilités. Ils ont également été invités à taire les armes en attendant l'effectivité du programme de DDRCS et aux habitants de soutenir les FARDC et de ne pas les considérer comme des ennemis pour la restauration de l'autorité de l'État dans les territoires de Djougou. Autre appel lancé, la promotion de la cohabitation pacifique entre les communautés locales. Cette campagne va se poursuivre dans d'autres entités du territoire de Djougou, affirme le chef de Walendu Djati. Ces autorités coutumières prévoient également de rencontrer les leaders des groupes armés pour les sensibiliser sur les conséquences de la guerre sur la population qui est appauvrie et qui se trouve en perpétuel déplacement forcé. La calmie devrait contribuer à stabiliser ces territoires et favoriser les retours des milliers de déplacés, relancer les activités agricoles et économiques qui sont paralysées en raison de la persistance de l'insécurité depuis 2017. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, les élections approchent et on se prépare pour voter utile dans le territoire de Beni au Nord Kivu. La jeunesse de Kassindi vient de lancer une campagne de sensibilisation dénommée Député ou Citoudangani. Et traduisez, député ne nous ment pas. Objectif, sensibiliser et conscientiser la population de Kassindi sur un choix judicieux de leurs députés lors des prochaines élections. Fidèle Mutupeke, membre de la jeunesse de Kassindi, explique au téléphone de Marc Marofimbo.
Nous sommes en train de sensibiliser la population de Kassindi, une campagne Député ou Citoudangani. Nous avons aussi appelé la population de bien voir, de bien choisir un vrai député. Cela veut dire un député qui sait élaborer la loi, un député qui va nous représenter valablement, un député qui sait contrôler le gouvernement. Nous encourageons la population de bien choisir, de ne pas être manipulée par certains députés qui vont venir ici pour battre leur campagne. Et nous encourageons tout le monde de Kassindi, particulièrement même dans le territoire de Beni, de prendre cette campagne en main pour que les députés ne puissent pas chaque fois venir avec leur aventure à tromper la population.
Retour en Ituri. Comment renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale congolaise afin de mieux assurer la sécurisation des élections de décembre prochain? Cette question était au centre des échanges hier à Bunia entre les responsables de la police de la province et le chef de la police de la MONUSCO en RDC. Selon leur déclaration, le but de cette rencontre était de renforcer le partenariat entre les deux institutions, mais aussi d'identifier les défis qui restent à relever, notamment la question des effectifs pendant cette période de transition de la mission onusienne. Ezekiel Mouzalia.
Plusieurs questions ont été évoquées au cours de cette rencontre. C'est notamment la mise en place du plan commun de sécurisation des élections, du recrutement et la formation des 2042 nouvelles unités recrutées au sein de la police. Ces policiers vont renforcer l'effectif au sein de cette institution en vue d'une meilleure sécurisation des civils, conformément au mandat de la MONUSCO. Soumano Kumba, chef de secteur de l'UN Paul Bounia.
Nous œuvrons dans le cadre de la transition. Nous sommes en train de voir comment aider la PNC à avoir des infrastructures décentes pour les élèves policiers qui vont vraiment séjourner.
Selon le bureau provincial de la police, cette rencontre est d'une importance capitale pour préparer la police à assumer pleinement son rôle lors des élections de décembre prochain, mais aussi déposer des bases de la relève après le départ de la MONUSCO pour la sécurisation de la population. Bukasa Makelela, chef de la sécurité publique de la PNC Ituri.
Ces populations auront besoin d'un répondant au niveau sécuritaire. C'est surtout la police. Pour que la police soit là, il faut qu'il y ait des infrastructures. Nous avons identifié tous les besoins, nous avons été transmis à la haute hiérarchie.
Le numéro 1 de la police de la MONUSCO en RDC, le général Modi Beret, a visité le centre de coordination des opérations de la police qui est en construction grâce au financement de la MONUSCO. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et puis, l'Association nationale des victimes du Congo, ANVC, a recommandé hier au gouvernement d'assister plus de 700 victimes des droits humains et des pluies diluviennes dans le Grand Bandundu. Le président de cette organisation, Miran Moulumba, a fait cette requête dans un entretien à Radio Kapi. Il a expliqué que nombreuses de ces personnes vulnérables manquent de nourriture, des vêtements, d'abri et passent nuit à la Belle Étoile, à Kwamout et dans plusieurs autres agglomérations de ce coin du pays. Miran Moulumba explique la situation au micro de Blaise Ndongala Mayan.
En cette période cruciale, je voudrais ici lancer un appel non seulement à toute la notabilité du Grand Bandundu, mais aussi surtout aux élus, qu'il est temps de pouvoir faire pression au gouvernement congolais, voir dans quelle mesure ma population vulnérable de Bandundu peut être consolée dans sa souffrance. Il est inadmissible de constater que c'est depuis le mois de janvier qu'il y a eu des tueries, il y a eu des viols systématiques, il y a eu des hommes qui ont été enterrés, et aujourd'hui, cette population est impatiente de voir Madame la ministre de la Justice se mettre à l'œuvre pour voir dans quelle mesure on doit absolument établir les responsabilités que ceux-là qui se sont comportés de manière irrégulière subissent la rigueur de la loi. Et mais pourquoi pas aussi apporter des mesures réparationnelles à toutes ces victimes. Mais comme si cela ne suffisait pas aussi. Mais pas plus tard, le mois d'août, nous avons encore connu des catastrophes naturelles. Mais vous comprenez que le gouvernement congolais intervient ailleurs. Je voulais ici demander le bon sens de son Excellence, Monsieur le Président de la République.
Notez que l'espace Bandundu est depuis janvier dernier en proie à la crise sécuritaire due au phénomène Mobondo. Avant de clore ce chapitre, sachez que le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu hier le diplôme de docteur honoris causa de l'université de Kinshasa, UNIKIN. Selon un tweet de la présidence de la République, ce titre honorifique lui a été décerné pour ses nombreuses réalisations en faveur du peuple depuis son accession au pouvoir. Parlons enseignement primaire, secondaire et technique à présent. La RDC a pris part récemment à Singapour à un concours mondial des élèves de moins de 18 ans sur la robotique. 5 élèves de la ville de Bukavu se sont classés 18e sur les 191 pays ayant pris part à ce concours. Un concours qui a consisté en la fabrication et fonctionnement d'un robot qui produit de l'électricité à partir de l'hydrogène. C'est un reportage de Emmanuel Elamejio Akabedi.
Ce sont les trois élèves de l'Institut Kasali en électronique, un élève de Fundi Maendeleo en électricité et une élève de latin philo. Ils ont bénéficié de l'encadrement technique sur les robots producteurs de l'électricité à base de l'hydrogène. Le ministère de l'EPST leur a permis de prendre part au concours sur le robotage à Singapour en début de ce mois d'octobre. Éliminés à l'étape de quart de finale, ils occupent la 18e place au monde sur les 191 pays concurrents devant la France et les États-Unis. Pour le proverbe de Simon Zono Ingalea, ceci est une preuve que le système éducatif congolais est efficace.
Cette prouesse que les enfants ont réalisée traduit l'efficacité de notre système éducatif et cet exploit est à mettre dans la dynamique de la mise en œuvre des approches pédagogiques innovantes. Et moi, je pense que le ministère de la Recherche scientifique, Innovation et Technologie peut exploiter ces talents pour qu'un regard particulier soit jeté sur ces enfants qui étudient dans les écoles de Bukavu.
Ces lauréats de la technologie disent leur détermination à aller plus loin. Certains d'entre eux ont eu à contribuer à la conception de l'actuel robot régulateur de la circulation dans la ville de Bukavu. Emmanuel Elamijo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Dans l'actualité aussi, ministres et inspecteurs provinciaux de l'agriculture en formation, pendant 3 jours, ils seront formés sur l'exécution des suivis et l'évaluation du plan de relance des productions agricoles sur initiative du ministère de l'Agriculture. Plusieurs experts vont intervenir lors de ce séminaire avec les thèmes tels que passerelle interministérielle pour une production agricole durable en RDC, de l'efficacité et de la rationalité dans l'utilisation des semences agricoles, des engrais chimiques connexes et l'implantation des brigades agricoles à travers le territoire national. L'ouverture de ce séminaire a eu lieu hier. Au micro de Richard Junior Kamunga, le ministre José Mpanda explique l'importance de ces assises.
Ces assises, les séminaires nous permettra également d'avoir une approche, je l'ai dit, convergente de l'agriculture, celle d'agrégation agricole. L'option que nous voulons implémenter dans la vision de son excellence M. le président de la République, l'option qui du reste recouvre au contrat des partenariats publics-privés. Le monde privé n'est pas nécessairement des grands investisseurs, mais vous devez suivre aussi les coopératives, les petits producteurs, les petits agriculteurs, l'agriculture des ménages, l'agriculture familiale, de les suivre, de les conseiller à faire mieux pour que nous puissions aller vers des grands contrats, les contrats que nous appelons l'agrégation. Les semences améliorées sont capables de nous amener une production très élevée. Nous allons, après ce séminaire, procéder à la distribution symbolique des motos aux inspecteurs provinciaux et même territoriaux. Le président de la République voudrait que nous accompagnons, vous qui gouvernez, vous qui suivez les paysans sur le terrain. Il faudrait qu'on remette le système de moniteurs agricoles.
L'actualité, c'est aussi le 12 octobre. Hier, la communauté congolaise s'est souvenue de l'artiste musicien Luambo Makia Didi Franco, décédé il y a 34 ans. Selon la ministre de la Culture et Arts, Franco Luambo Makia Didi est l'un des artistes qui ont fait la promotion de la danse rumba. Catherine Katungu Fura l'a dit hier au cours de la conférence de presse conjointe avec son collègue des médias Patrick Muyaya. Catherine Katungu, dans ses propos recueillis par Paul Matendo Mayamba.
Les artistes ne meurent pas, ils sont toujours là parce que leurs œuvres continuent à parler d'eux. Luambo Makia Didi nous a quittés, ça fait 34 ans, mais nous ne pouvons pas l'oublier, nous lui rendons hommage en ces jours. J'ai préparé un discours qui a circulé pratiquement toute la journée. C'était pour rappeler que lorsque nous avons eu l'occasion d'avoir la rumba comme patrimoine, nous avons à notre niveau mis en place un calendrier dans lequel nous avons mis en valeur les paroliers de notre pays. Et Luambo Makia Didi étant un grand parolier, un moraliste, un moralisateur si je peux me permettre le terme, ces grands guitaristes avec des quintes que personne d'autre n'a su faire, doit rester dans notre mémoire. Celui-ci qui a travaillé avec d'autres précurseurs de la rumba, nous lui avons, pas nous, mais le monde, lui a reconnu beaucoup de termes de temporalité dans ses œuvres. Et j'ai vu aujourd'hui beaucoup de gens dédier la chanson Mario, que le monde entier a repris beaucoup de gens l'ont étudié. Donc, une façon de dire que Mario est cette chanson qui nous rappelle Luambo Makiadi, c'est mon réalisateur qui nous demande à la responsabilité.
Actualité internationale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, regrette profondément l'ordre d'expulsion de la coordonnatrice de l'ONU au Niger, ordre donné par le régime militaire qui va entraver les opérations humanitaires, a déclaré mercredi son porte-parole. Cette expulsion de Louise Aubin, réclamée dans les 72 heures par le régime issu d'un coup d'État en juillet, va entraver les capacités de l'ONU à accomplir son mandat et perturber le travail essentiel au Niger, où 4,3 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Principalement des femmes et des enfants, a insisté Stéphane Dujarric, ajoutant que cet ordre était contraire aux règles internationales applicables aux représentants des Nations Unies. Ainsi prend fin ce journal, supervisé par Pele Kipela Mondo. Merci de l'avoir suivi.